Je crois que j'ai un peu trop chanté aujourd'hui. Peut-être ça, c'est vraiment pas possible, je ne sais pas, mais voilà. C'est un peu drôle de dire, mais là, je ne voulais pas y aller. France en feu, ce n'est pas la façon de commencer un témoignage de France en feu. Mais je ne voulais pas y aller. Il y avait une autre chose ce week-end-là. Je fais partie de... quasi partie d'un ministère qui s'appelle Opération Capitale d'Europe, qui part pour prier dans les capitales d'Europe. Et ce week-end-là, c'était Reykjavik, en Islande. Je voulais y aller vraiment voir Islande, mais j'ai trop tardé, et c'est devenu trop cher, ça coûte cher d'y aller, et au moins un peu trop cher pour mon niveau de foi. Donc voilà. Mais deuxièmement, j'étais pas trop emballé par l'orateur qui était proposé pour France en feu, parce que je connaissais déjà ses enseignements et sa façon d'enseigner. Très intense, fatigant, au moins pour moi, à écouter. Donc ça ne m'a pas donné trop envie d'y aller. Mais France en feu m'a beaucoup plu deux autres fois que je suis allé, et j'ai dit, bon, bah, alors, pourquoi pas cette fois aussi. D'ailleurs, je suis 100% de cœur avec les gens de France en feu et le ministère et tout ça. Ce sont aussi des occasions, des rencontres, des gens de même ADN que nous, et j'aime ce type de contact et tout ça. Mais malgré ça, je suis allé avec les attentes, pas trop haut. Donc, on a passé une route paisible. Merci à Vito. Je crois que c'était 9 heures ou choses comme ça. Mais c'était paisible, mais c'était quand même long. J'avais les jambes qui criaient d'être dans une position et tout ça. Donc, assister à une réunion à l'arrivée, qui commençait à 20 heures de soir, était un vrai défi pour moi. Donc, 9 heures de route, après temps pris pour aller chercher de la nourriture pour les petits déj et tout ça. Donc, je n'étais pas vraiment en bon état, au moins d'attitude, mais aussi mon corps, il criait un peu. Alors, Bill Johnson, il dit souvent que chaque circonstance ou pensée qui n'est pas remplie d'une espérance étincelante est sous l'influence d'un mensonge ou des mensonges. Et donc, j'ai pu voir clairement que c'était mon état, c'était mon cas, en arrivant à cette réunion. Bien que la louange tout au long du week-end était glorieuse à tout point de vue et tout ça, vraiment excellent, j'ai vu en moi que rentrer dedans allait exiger un acte de volonté de ma part, mais un acte assez fort. Sinon, ça ne serait pas les vagues de gloire qui vont me submerger, mais plutôt les vagues de négativité, de brouillard et tout ça. Donc, l'acte peut-être le plus dur pour moi, c'était de mettre mon corps en action. Je peux chanter facilement, j'aime chanter, mais quand je vois, par exemple, quand la musique commence, moi, je me mets à chanter, et il y a Caroline qui se met à bondir dans la salle, et je reconnais que différentes personnes ont des différents dons, des différentes façons de s'exprimer. Et la mienne n'est pas dansée, au moins au premier. Mais je savais qu'avec mon corps qui criait, il fallait que mon corps entre dans le jeu. Donc, je ne le fais pas trop souvent. Vous ne me voyez pas trop souvent en dansant. Et je vous assure que mon état ne me poussait absolument pas à faire. J'aurais plutôt me mettre au lit qu'autre chose. En anglais, on a une expression « lean into » quelque chose, et qui parle d'idée de ne pas simplement subir une circonstance difficile ou une douleur. C'est pas ça forcément la meilleure façon de surmonter quelque chose, si tu le laisses arriver, mais plutôt de se pencher vers. Et donc, c'était un peu ce que j'ai fait. Donc, j'ai fait plutôt intentionnellement, et j'ai fait ça avec mon attitude et aussi avec mon corps. Et je les ai confrontés à ce moment-là, mais aussi tout au long du week-end. Et je crois qu'en faisant ça, j'ai fait une sorte d'espace pour que Dieu puisse mettre quelque chose. C'est une façon de labourer la terre. C'est une façon de labourer la terre pour que les semences puissent entrer. Autrement, j'étais en terre un peu aride, un peu dure. Et donc, c'était ma façon de labourer la terre. Donc, c'était juste magnifique comme Dieu m'a rencontré tout au long de ce week-end-là, même pour les enseignements que, voilà, pour lesquels je n'avais pas trop envie. L'orateur Corey Russell, venant de IHOP à Kansas City, il était effectivement très intense, mais j'ai pu quand même en tirer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Aussi, elle a amené 4 livres à nous vendre, des livres en anglais. Donc, il n'y avait pas beaucoup, mais voilà. Et moi, qui n'attendais pas à aimer les enseignements, je n'attendais encore même, ou moins, à acheter quoi que ce soit de lui. J'ai acheté les 4. Alors jusqu'à présent, j'ai terminé la moitié d'un des livres qui parle de comment le fait de prier en langue peut transformer nos vies. Et c'est bien que j'ai pu lire ou je peux lire maintenant ces choses que lui il a abordées en enseignant, que moi je peux les lire maintenant parce que de le faire à ma vitesse à moi, ça fait en sorte que les mêmes choses viennent de deux vitesses différentes et ça rentre plus profondément. Et ça c'est bien. Donc Angela qui n'était même pas là, elle a déjà lu un de ses livres qui parle de la prière. Pourquoi nos mots à Dieu ont de la valeur. Et elle se met à pleurer à plusieurs reprises en lisant ce livre. Donc c'était vraiment que de l'or que ce qu'on a reçu. Donc pour reprendre un peu de ce qu'il a dit et ce que je suis en train de lire maintenant, donc, j'ai traduit quelques paragraphes de ce livre « La gloire dedans » qui parle de la gloire d'avoir le Saint-Esprit en nous et comment le prier en langue nous ouvre le chemin pour toucher cette gloire. Donc c'est ma traduction, excuse-moi. Voici notre part, connaître les mystères de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné afin de nous révéler ces mystères. Et le don de prier en langue nous a été donné afin que nous puissions nous engager avec le Saint-Esprit pour libérer cette révélation. Quand nous parlons en langue, nous sommes en train de réveiller nos sens spirituels et de connecter avec cet esprit de révélation. La révélation est le fondement sur lequel la foi se tient. La révélation nous ouvre tout ce qui nous est disponible en Christ. Elle fait en sorte que tout ce que j'ai à être, il fait en sorte que tout ce qui a été caché soit maintenant connu, c'est-à-dire le plan de la rédemption qui se trouve dans le cœur de Dieu. La révélation nous amène à la connaissance de Dieu. C'est pourquoi le plus grand besoin dans la vie de chaque croyant et cet esprit de révélation. La révélation nous révèle notre héritage et dès qu'on voit et qu'on connaît ce qui nous a été donné et qui Dieu est, nous avons la capacité de faire des pas de foi. La foi coule de la révélation, c'est-à-dire notre capacité de prendre les étapes dans l'inconnu est directement proportionnelle à ce poids de révélation qu'on possède. Alors notre plus grand besoin est un esprit de révélation qui grandit continuellement. Quand nous parlons en langue, nous ne sommes en train non seulement de proclamer les mystères de Dieu, mais aussi nous sommes en train d'engager l'esprit de révélation qui déverrouille ces mystères pour nous. Ce qui veut dire qu'en priant en langue, nous nous préparons nous-mêmes à marcher dans les plus grandes mesures de foi. Je remarque, et ça c'est lui qui parle, je remarque qu'après une vingtaine de minutes de prier en langue, que mes pensées commencent à être inondées des pensées divines, des versets et des impressions. Cette révélation prend typiquement la forme de versets et de phrases bibliques qui sont tout à coup surlignées dans ma tête. Des connexions entre des différents passages bibliques, des paroles de connaissance, des paroles de sagesse ou des images et visions. Même mes rêves nocturnes changent quand je prends du temps régulièrement de prier dans l'esprit. Alors moi, je ne suis pas toujours pas trop connecté avec sa façon de prêcher, mais le fait de m'avoir fait violence pour entrer dans ce qui était dans l'agenda de Dieu pour moi ce week-end-là, nous, Angela et moi, ça nous a ouvert à son ministère, Corey Russell, et plutôt à les messages de sa vie, les choses qu'il vive en continu et qu'il prêche. Et donc, ce sont les choses dont on a tellement besoin, nous deux, personnellement, maintenant. Donc, c'était vraiment le timing de Dieu. Personne ne nous a parlé des enregistrements, donc je ne crois pas que lui, il était enregistré. Pour ma part, j'ai enregistré la dernière matinée, et ce n'était pas lui qui a parlé, c'était le leadership de France en Feu qui nous a donné plusieurs mini-messages. Donc, je les ai réécoutés récemment et j'ai vu qu'ils ont repris ou bien complété ce que je suis en train de lire dans le livre de Corey Russell, ce que Elvire nous a porté dans le week-end de Pentecôte, aussi ce qui était prêché pendant le week-end là. Donc, plusieurs thèmes ont été abordés. Qui vont, à mon avis, tout à fait ensemble. Donc, par exemple, et on a parlé un peu de ça, on a chanté ce matin à ça, parler à l'esprit des 80 ou parler à l'esprit de vie. Donc, on parle à l'esprit. Ézéchiel 37, des ossements desséchés. Parler avec l'esprit, dans Apocalypse 22, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Les mystères de Dieu, Proverbe 25:2, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder des choses. Alors, aussi, comment sonder ces mystères ensemble, pas seulement nous dans notre chambre individuelle, mais ensemble. Bien sûr, le thème des maisons de prière, sujet d'actualité en France, chez nous, chez IHOP à Kansas City, bien sûr. Le réveil. L'urgence des temps, qui va tout à fait avec ça, et le besoin de travailler notre histoire personnelle avec Dieu. Donc cette histoire qu'on crée, nous, avec nos expériences de vie et comment on interagit avec Dieu dans ces expériences et notre intimité avec Dieu. Et travailler notre intimité collective avec Dieu. Investir du temps à l'adorer ensemble ainsi que toute seule. Donc ça c'est l'histoire de maisons de prière, histoire des tabernacles, histoire de nos temps ici le dimanche matin, comment l'adorer ensemble, qu'est-ce que ça nous apporte. Donc pour un peu ma conclusion, je veux dire que souvent dans un climat d'adoration collective qui dure pendant un temps, comme dans une conférence, comme celle-ci, nous vivons un peu ce qu'ont vécu les moines irlandais, c'est-à-dire les lieux fins où la séparation entre le monde spirituel et le monde physique est plus fine. Et donc à la conférence, on avait plein de louanges, il y avait même un temps, et je crois qu'ils font ça chaque conférence de France au feu, un temps de 6 heures affilées, donc un tabernacle si tu veux. Et c'est dans ce genre de situation qu'on peut mieux entendre les paroles spécifiques de Dieu. Vous savez ce type de réponse qu'on cherche souvent entre deux portes dans notre vie de vitesse quotidienne. On veut absolument que Dieu nous parle, qu'il nous donne la réponse qu'il nous faut pour prendre cette décision ou une autre. on ne fait pas preuve d'un grand succès normalement avec cette façon d'écouter Dieu. Mais comme disait Elvire pendant la conférence à Bordeaux, quand elle a envie de partager les choses intimes de sa vie, elle ne le confie pas à quelqu'un entre deux portes. Elle ne le confie pas à les personnes qui ne sont pas ses amis proches et qui ne lui donnent pas leur attention complète. Elle le fait quand quelqu'un ou quelqu'une est prêt à s'asseoir avec elle, passer du temps et d'être attentive à ce qu'elle est en train de partager, à ses paroles, mais à son cœur plutôt. Donc notre Père Céleste n'est pas différent que ça. Il désire nous parler, nous partager son cœur. Son cœur pour plein de choses. Donc moi j'ai vécu ça à Bordeaux. Je suis actuellement en train de prendre un virage dans ma vie où l'orientation de mes activités change et une nouvelle saison arrive. Entreprendre les nouvelles choses est bien, mais comment procéder vers le nouveau avec les mains déjà pleines? Pendant la conférence, Dieu m'a dit clairement, dans sa façon à lui, l'étape qu'il fallait que je fasse. Donc ça ne m'a pas donné seulement de l'information utile, mais ça m'a touché le cœur, parce que mon papa m'a parlé. Et c'est ce genre de communication qu'on est susceptible d'avoir dans une conférence comme ça, où on passe du temps dans sa présence, un temps étendu. Donc je vous donne cet exemple simplement comme encouragement d'y aller la prochaine fois qu'a lieu la conférence France en feu. Et on n'a pas encore des détails, ni lieu, ni date, rien. Donc c'est un rassemblement des gens avec le même ADN que nous et une façon de nous connecter à la vision plus large et plus stratégique de Dieu pour notre nation. Et ça nous booste de revenir renouveler pour notre engagement local avec une meilleure compréhension de l'efficacité de ce que tu es en train de faire ici et un désir de vivre les rêves de Dieu ensemble. Merci.
Bonjour, moi je vais un peu dire des choses différentes. D'abord, je voulais dire que Luc et Manuela, quand ils ont chanté le chant là ce matin, le chant d'amour avec le fiancé, c'est un petit peu l'introduction de tout ce qui s'est passé à Bordeaux, c'est-à-dire l'intimité avec Dieu. Et ça, c'était vraiment très très bien choisi là pour la suite. Parce que le thème, c'était... thème du week-end national, c'était la gloire de l'intimité à Bordeaux. Et pourquoi j'y suis allée? Je dis juste en deux mots quelques petites choses. J'étais allée parce que depuis longtemps, je voulais aller voir mon neveu qui fait des études à Bordeaux. Et je voulais aller le rencontrer un petit peu pour voir. J'ai pu le voir, mais il n'est absolument pas croyant. Hein, il est tout à fait dans l'autre, de l'autre bord. Il est venu avec moi, il est venu m'accompagner jusqu'à la salle qu'on avait, une salle qui était louée, une des très belles salles de Bordeaux, une des plus belles salles où se font les conférences politiques et tout, et puis avec une terrasse vue sur la Garonne, enfin le paysage était magnifique, et il faisait beau, ça compte aussi, hein. Et puis mon neveu de me dire, mais comment est-ce que vous avez pu, parce qu'il ne connaît pas tout ça, mais comment est-ce que vous avez pu louer cette belle salle? Parce que ça, c'est réservé aux, pas à nous, mais aux autres. Et moi, j'ai trouvé ça très chouette. Il était interloqué. Bon, voilà. Ça, c'est la première mise en route. Mais tout d'abord, pour démarrer, il faut quand même que je dise un petit mot. J'ai oublié ma valise dans le hall de gare de Colmar avant de partir. Enfin, c'était la petite histoire, hein. Vraiment, il y a déjà eu des... Ouais, il y avait un train qui partait. Je prenais le train. J'avais la correspondance pour Strasbourg. Et il y avait un train qui partait pour Strasbourg. J'ai composté mon billet. J'ai pris et je suis montée dans le premier train. La contrôleuse m'est montée. J'étais un peu en avance, ce qui ne m'arrive pas souvent. Et puis, je suis partie dans le train. Et la valise est restée dans le hall de gare à Colmar. Et puis, alors la contrôleuse était très sympa. Elle a téléphoné tout de suite et moi j'avais un billet Prums, donc je ne pouvais pas l'échanger. Et elle a téléphoné et finalement cette valise est venue avec le train suivant que je devais prendre. Donc 10 minutes après, il y avait ce train-là ou un quart d'heure après et je l'ai récupéré à la gare de Strasbourg sur le quai. Je ne savais pas où, mais je l'ai récupéré. J'ai pu partir avec ma valise. Ça, c'était le premier truc. Et pour dire pour le retour, il se passait la même chose. Le train avait du retard à Bordeaux. Et puis je partais et il avait une heure de retard parce qu'il n'y avait pas de signalisation à l'arrière. Et puis on roulait de nuit, donc il ne pouvait pas rouler. Il fallait faire des changements de rame. Donc il y avait une heure de retard. Et moi j'ai pris ça comme ça, que Dieu ne veut pas nous faire partir sans être en sécurité. Il fallait qu'on parte dans le train en étant tout en sécurité. Et puis donc je suis rentrée à Strasbourg, il n'y avait plus de correspondance pour Colmar. Et puis la SNCF nous a payé, il y avait plusieurs, le taxi direct jusqu'à Colmar. Voilà. Et en plus, j'ai encore eu 20 ans, quelques euros parce que le train avait du retard de la SNCF. Bon, ça c'est perso, hein. Alors le week-end dans lui-même, donc il y avait Fabienne Ponce, il y avait cet orateur Corey Roussel. Et Fabienne Ponce, il faut dire qu'elle était là, bien qu'elle était en burn-out. Et Dieu parle de l'intimité et de ce qui est et de ce qui vient. Il ne faut surtout pas copier ce qui se fait ailleurs. La France est secouée. Et alors le Seigneur a demandé au Seigneur, que devons-nous faire? Et Dieu dit, ne faites rien. Dieu dit, je n'attends pas que vous fassiez quelque chose, je vous attends. Et Fabienne Ponce, elle a entendu, oui, il faut que nos écailles tombent de nos yeux. Arrêtons de lire la Bible, mais parlons-la. Et c'est le texte de 2 Samuel 5, où David a vaincu l'ennemi en ayant d'abord consulté l'Éternel et en ne faisant... en n'allant pas en avant en premier. Dieu fait de la France un pays prophétique. Ce n'est plus le temps des grands prophètes, mais un peuple de communautés qui sont prophétiques. Ça me fait penser à Josué, hein. C'est toi que Dieu cherche. C'est un changement de saison. On attend derrière le mûrier, oui. On entend, tu entendras un bruit de pas dans la cime de mûrier. Donc il faut distinguer ce signe de pas, ce signe de la cime. Dès qu'il y aura un bruit qui viendra, alors ce sera temps pour faire autre chose. Le bruit, c'est basculer dans le hors rationnel. Êtes-vous prêt à sortir des zones de sécurité? Et qui est-ce qui a un diplôme de théologie de l'écoute des mûriers? Ça, elle a dit. Voilà. Il faut préparer à ce qu'on ne sait pas. Hein. Et on parle de l'intimité. L'intimité, c'est être mise à l'écart. Et on apprend ça dans sa présence. La gloire aussi, c'est quelque chose qui se pèse. Quand nous sommes légers, nous sommes trouvés sans gloire, sans présence. Alors la question de Dieu, combien tu pèses? La gloire, c'est la réalité de l'intimité. Que chacun s'examine, voilà. Et alors, Corey Roussel, maintenant je parle de Corey Roussel, c'est la première fois qu'il était en France et il a un cœur, l'intimité avec Dieu. Et il faut dire qu'il était il était papa de 4 enfants et il a perdu, il a 3 filles et puis un garçon qu'il a perdu à l'âge de 9 mois de mort subite. Et puis c'est ça qu'il a fait vraiment rechercher davantage l'intimité de Dieu. Hein, peut-être là qu'il a écrit le livre. Et il faut avoir la relation avec l'Esprit Saint, demander à l'Esprit de régner sur nos émotions. Et là, je rappelle juste ce qu'il a dit, ce qui est très important, c'est Dieu qui m'utilise et qui me fortifie. Prier le Saint-Esprit en langue, oui, comme tu as dit, il a prié 20 minutes chaque jour. Hein. Ça, c'est ce qui est, pour lui, c'était la clé. Alors, ça peut être une clé pour d'autres aussi. Et Voilà, et je terminerai juste par encore un mot qu'il a dit, que Corée disait. On était nombreux là dans cette salle, mais il y avait une partie qui était manquante, c'était les jeunes. Et il a dit, où sont les jeunes? Et il a cité entre autres aussi que Daniel, il avait 15 ans quand il était, je ne sais plus dans quel livre, mais que les jeunes là doivent se lever. Voilà. Et prier, on a aussi prié pour les jeunes, et puis que vraiment un cœur, tout ça, pour qu'ils soient aussi présents. Alors je suis reconnaissante d'avoir pu parler. Il y a encore plein de choses, hein, mais je ne peux pas tout. Voilà. Je te laisse la suite.
Alors moi, je voudrais d'abord vous parler un peu de ce que j'ai vécu. J'avais une idée un peu folle en moi. On parle des boîtes de nuit. Je dis, Seigneur, ce serait possible un jour d'avoir une boîte de nuit avec des chants pour toi. Je ne l'avais jamais dit à personne. Et en fait, le séminaire, il s'est fini avec un concert électro pour les jeunes. Bon, ça peut peut-être en choquer certains, mais là, le Seigneur, il m'a dit, tu vois, Pascal, ben finalement, ça se passait là, quoi. Mais il y avait les jeunes... avec la musique électro, mais c'était sur des chants, des chants de louanges, quoi. Et tout le monde y allait, enfin, c'était pour les jeunes, il y avait beaucoup de bruit, c'était... Mais là, j'ai vraiment vu quelque chose que j'avais dans le cœur, quoi. Et sinon, par rapport à ce que j'ai vécu une nouvelle dimension de l'intimité, dans le sens où, en fait, on était tous tournés vers le Seigneur, mais on ne regardait pas à droite, on ne regardait pas à gauche, et c'était une intimité dans le collectif. Et à un moment donné, donc on était devant, j'avais un monsieur à côté de moi, un monsieur déjà d'un certain âge, et à mon avis, il n'avait pas trop l'habitude de danser, et en fait, il était là. Il me regardait comme ça, il ne s'est pas bougé tout seul, c'était, et l'unité se traduisait même par le fait qu'il y en avait qui étaient devant, qui commençaient un pas ou quelque chose, et tous, on faisait la même chose. Et on était heureux, on était content. Et on regardait pas à droite, on regardait pas à gauche. Et c'était puissant. Et à un moment donné, je vais en parler, mais l'appel sur notre nation, c'est vraiment la passion. Et quelqu'un, un chantre a dit, il faut vraiment, en tant que peuple de Dieu, qu'on se réapproprie ces mots, je t'aime. Parce que la France est un pays de passion, et les chrétiens doivent se réapproprier ces mots. Pour leur Seigneur. Et on s'est mis à dire je t'aime à Jésus. Ça confirmait plein de choses que j'avais en moi. Et moi, je vais vous parler un peu de ce qu'a parlé Edith, mais je ne vais pas vous parler de ce dont a parlé Corey Russell. J'avais déjà entendu parler de Fabienne Ponce et je savais qu'elle aimait la France. Et mon cœur a vraiment vibré quand j'ai entendu cette femme. Elle a vraiment compris quelque chose pour la France, sa destinée. Et en fait, elle s'est posé la question au début de la rencontre, mais Seigneur, mais pourquoi on court? Et Dieu lui a répondu, je viens prendre ici quelque chose qui me plaît, un parfum particulier. Et ce parfum est spécifique à la France. Dieu a fait de la France un peuple passionné. Un peuple passionné qui à l'heure actuelle, on voit ce qui se passe en France, il est un peu déviant, hein, mais ce peuple de France qui est passionné, c'est vraiment notre appel et on doit apprendre à se repassionner pour Dieu. Comme a dit Edith, on ne doit pas copier ce qui se fait ailleurs et on doit vraiment se poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour la France? Et Dieu, en fait, à l'heure actuelle, il répond rien. Je n'attends pas que vous fassiez quelque chose, je vous attends vous. Et en fait, on est dans des temps d'urgence et on se dit, mais Seigneur, mais qu'est-ce qu'on fait? Où est la réponse? Et là, elle a dit, certains disent il faut aller évangéliser, capter la sphère politique, les domaines de l'éducation. Et elle dit, c'est bien, et c'est très bien. Et en fait, mais Dieu, il dit, je vous attends. Et notre premier appel, c'est tu aimeras ton Dieu. Alors, notre pensée grecque, en fait, elle sépare les deux, mais elle dit que les deux sont liés. Dieu, en fait, il rassemble les choses. La pensée hébraïque, elle n'oppose pas les choses. Et si notre appel c'est dans la société et pas ailleurs, c'est bien. Mais notre première priorité, en fait, c'est d'abord d'aimer notre Seigneur. Et en fait, en faisant ça, en l'adorant, on arrive à la deuxième. C'est pas opposé. Donc on a besoin de répondre à l'appel de Dieu, et parce qu'en fait on ne peut pas apporter aux autres ce qu'on a nous-mêmes, on ne peut apporter que Dieu le Père, et il nous faut le connaître, d'où l'importance de l'intimité. Alors le Seigneur va nous donner des nouvelles stratégies. Il vous a parlé du bruit, le bruit des pas dans la cime des mûriers, et en fait c'est dans 2 Samuel. Et donc l'histoire en fait c'est que Samuel devait... après être roi, a été attaqué, et donc il s'est tourné vers Dieu, il a dit « Seigneur, qu'est-ce que je fais ?» Une première fois, le Seigneur lui a dit « Vas-y, il a attaqué. » Et la deuxième fois, quand les Philistins sont venus l'attaquer, il a redemandé à Dieu, et ça nous fait penser, même pour moi-même, des fois j'ai trop l'habitude de foncer, et à chaque fois en fait, qu'il se passe quelque chose, il faut d'abord se tourner vers le Seigneur. Et là, le Seigneur lui a dit une drôle de chose, « Quand tu entendras le bruit, du bruit de pas dans la cime des mûriers, alors tu iras. Et en attendant, t'attends et tu te caches. » Et le problème, c'est que le bruit de pas dans la cime des mûriers, personne ne l'a entendu, c'est quelque chose de surnaturel. Et en fait, les nouvelles stratégies de Dieu, eh ben, Dieu veut... en fait, qu'on développe notre écoute des choses surnaturelles. Dieu veut nous donner des yeux pour voir, veut nous donner des oreilles pour entendre. Et donc, tout ça, en fait, ça se fait aussi en communauté, parce que l'appel de l'identité de la France que Dieu est en train de restaurer, c'est un peuple, une communauté prophétique, qui a besoin de sécurité, besoin de fonctionner ensemble. Et elle a dit quelque chose d'important, c'est dans l'ensemble que le prophétique va être le plus mûr. Il ne faut pas chercher à copier. Dieu, en fait, est en train de développer des tas de petites communautés, hein, des maisons de prière, des tabernacles. Et à un moment donné, ça va s'embraser quand Dieu va nous dire d'y aller. Dieu est en train de nous chercher, de nous rassembler. Il ne cherche pas quelqu'un d'autre qui n'est pas toi, c'est toi que Dieu cherche. Si tu es de cette nation dans la francophonie, alors Dieu te cherche. Sommes-nous prêts à voir et à entendre des choses inhabituelles? Et puis après, toujours dans le passage de Samuel, en fait Dieu il dit « attends ». Et nous, dans les temps qui vont venir, on va dire « Seigneur, ça chauffe ». Ça chauffe, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Mais Dieu il va nous dire d'attendre. Et en fait Dieu il est hors du temps. Et puis nous, on est dans le temps, et c'est dur. Mais en fait, il faudra y aller quand Dieu nous dira d'y aller. Voilà, c'est ça. Alors, une deuxième chose, elle a parlé de l'intimité. Et elle a parlé de Jean 17, ce qu'on appelle la prière sacerdotale de Jésus. Et elle a parlé de deux façons, en fait, d'aimer le monde. Et... elle a dit, elle, qu'au début, ils étaient dans leur église, et puis de temps en temps, ils partaient faire des incursions dans le monde, ils allaient évangéliser, ils ramenaient une ou deux personnes, et voilà. Mais bon, ils ne se mêlaient pas au monde, quoi. Puis il y a un deuxième mouvement, et puis ce deuxième mouvement, c'est l'amour du monde, c'est la grâce, et en fait, il faut vraiment qu'on ait un équilibre entre les deux. Parce que c'est pas parce qu'on aime le monde qu'il faut qu'on soit comme le monde, qu'il faut qu'on parle comme eux, il faut pas qu'on fasse les mêmes choses qu'eux, mais en même temps, c'est pas une raison pour se couper de la relation avec le monde. Et elle a dit que Jésus, c'était vraiment quelqu'un, il le faisait parfaitement bien ça, en fait. Il était dans le monde, il ne faisait pas ce que faisait le monde, mais il aimait le monde. Donc elle dit, où on pense et on fait pareil que les pécheurs, et on n'a pas de différence avec eux, ou alors on se coupe d'eux, on ne les aime pas, non, il y a un équilibre. Et en fait, cet équilibre, eh ben, on le trouve aussi dans l'intimité avec Dieu. Et parfois, il y a un degré de maturité à atteindre. Dieu ne nous envoie pas tout de suite dans le monde parce qu'on n'est pas mûr. Et puis après, quand on atteint ce degré de maturité, Dieu nous envoie. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Elle a aussi parlé au début de Jean 17, au début de la prière sacerdotale. Jésus, il prie et il lève les yeux au ciel. Et en fait, quand il lève les yeux au ciel, il commence à regarder son Père. Il a conscience que son Père est là. Nous aussi, on doit lever les yeux vers le Seigneur et pas vers les choses difficiles. Et Jésus dit, en fait, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils. Et est-ce que vous vous rendez compte que, en fait, Dieu veut nous glorifier? Et ça paraît bizarre. Jésus il dit, je leur ai donné ma gloire. Et Jésus demande en fait, Père, que tu sois glorifié, mais c'est aussi, Jésus est glorifié. Et Edith l'a dit, c'est quoi la gloire? Donc dans le sens hébraïque kavot, la gloire c'est quelque chose qui pèse. Quand nous sommes trouvés légers, nous sommes sans gloire, sans poids, sans présence de Dieu. Dans le ciel, il y a une balance et Dieu est le Père des esprits. Quel est le poids de la présence de Dieu en toi? Dieu est le seul juge. Combien est-ce que tu pèses? Est-ce que la présence de Dieu te donne du poids dans ce monde, dans cette vie? C'est pour cela que Jésus, sachant ce qu'il attend, demande, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, pour que moi aussi je puisse te glorifier dans ma vie. Dieu dit, je veux que vous veniez tous dans ma présence. Dieu veut que nous soyons ensemble. On met de côté nos préoccupations, nos malaises, les styles qui ne nous conviennent pas. Je veux être là avec mes frères et sœurs parce que c'est ensemble que Dieu nous attend. Et quand on dit en fait, Père, glorifie-nous, en fait, c'est de lui demander plus de sa présence pour manifester sa présence dans ce monde. Alors Fabienne a juste dit une chose, c'est qu'une fois, elle a une vision, en fait, et elle a eu la vision que, on le sait, Jésus est à la droite du Père et il intercède pour nous. Et elle a vu, en fait, que Jésus, il souffrait. Il souffre, en fait, pour son Église, jusqu'à ce qu'elle arrive à maturité. Et elle dit que parfois, dans notre intercession, il nous arrive de toucher l'intercession de Jésus. Alors sachez que quand on ne supporte plus, parfois on en a marre de nous-mêmes, Jésus, lui, il nous trouve aimable et il prie pour nous dans le ciel. Et ce serait intéressant, quand vous êtes dans l'intimité avec votre Seigneur, d'aller voir en fait ce que lui, il pense de vous, quand des fois nous, on en a marre de nous-mêmes. Et puis parfois, c'est les autres qu'on ne supporte plus, et on a besoin d'avoir le regard du Père sur la personne, et entendre aussi la prière de Jésus. Qu'est-ce que Jésus, tu dis de ce frère? Qu'est-ce que tu dis de cette sœur? Parce que là est le chemin de l'unité. Et puis, je terminerai en disant, on cherche des manifestations incroyables, alors qu'en fait, le plus incroyable, c'est qu'il est en nous. Et Jésus, à un moment donné, il dit à ses disciples, mais vous cherchez le Père, mais je suis déjà depuis si longtemps avec vous, et vous ne m'avez pas vu. Et pensons-y aussi pour nos vies, en fait, il est en nous, quoi.
Super, merci pour tout ce qui a déjà été dit. Je voudrais vous faire un rapide compte-rendu de Christophe et Geneviève, qui étaient là aussi. Comme point particulier, je retiens la présence de Fabienne Ponce, malgré un burn-out. J'aime les gens vrais, ceux qui nous ressemblent tant, et qui ne disparaissent pas quand ça va moins bien. Même en faisant peu, sa profondeur est immense. Ce n'est pas pour accuser ceux qui ont disparu un temps en plus, mais pour exhorter à rester, même lorsqu'il est tentant de se cacher. Une révélation pour la collectivité. Un soir, lorsque Céline parlait et disait que Jésus est là, il frappe, il est évident qu'elle ne parlait pas de le laisser enfin entrer. Et j'étais percuté par l'idée que ce Jésus qui est en moi, parfois de façon épaisse, et bien là aussi à la porte. Et il frappait pour entrer avec une autre chose, quelque chose de neuf, quelque chose qui n'était pas encore dedans avec lui. Et j'ai ouvert la porte. La vision qui est entrée m'a cloué, mais celle-là, il la garde pour lui. Avec un environnement de disciples voulant avancer, le ciel est ouvert plus que jamais. Et la liberté prend une nouvelle dimension. J'exhorte d'autres à en profiter une autre fois. Je rêve aussi que nous puissions envoyer des personnes qui n'iraient pas toutes seules. Mais qui sait? Mais je sais que cela coûte des sous et nous en manquons partout. Mais je rêve quand même. Parler de la gestion de la prophétie. Merci à Fabienne d'avoir tenu le micro fermé. Aux 300 personnes qui, à un moment, auraient eu quelque chose à dire, aux 150 personnes qui avaient quelque chose d'important, Et probablement aux 50 autres personnes qui avaient quelque chose de vital à transmettre. La sagesse a eu le dessus et les mouettes sont reparties avec leurs pyjamas. Pour les initiés. Ok. Même dans ce milieu bien dynamique, les bannières faisaient office de parents pauvres. Nous avons la chance d'avoir des modèles à imiter et des possibilités de nous entraîner dans les deux sens du terme, afin d'être en mesure de trouver le courage pour initier des choses là où elles ne sont pas encore pratiquées. Et c'est vrai que parfois les bannières étaient un petit peu absentes cette fois-ci. Voilà, en gros, le résumé que je retiendrai de ce Christophe a dit. Pour ma part, c'était un très bon temps, vraiment un très bon temps. J'ai aimé les temps de voyage, toutes les discussions qu'on a eues, parfois pas faciles, parfois vraiment sympathiques, les temps d'échange d'intimité entre nous. J'ai aimé voir Christophe faire des bannières comme je l'avais rarement vu faire. J'ai aimé voir David danser. Et ouais, ça m'a réjoui. Je voyais Edith en pleine liberté, bouger. C'est juste fantastique de voir tout ça. J'ai aimé la folie qu'on a eue tous ensemble avec il y avait Pascal, il y avait Christine, il y avait Saint-Bastien. Sébastien, on a vécu des temps de folie. Alors, pas comme à Paris, c'est vrai, il y a 2 ans, mais c'était vraiment intense. Et je pense que Gabilair a quelque chose à apporter. Et je le redis, et ça a été dit, les jeunes, je ne comprends pas. On n'était que les cinquantenaires. Alors, c'est difficile de dire ça sans mettre de pression, mais je pense qu'il y a une urgence pour vous de vous connecter à ce qui se passe là-bas. C'est un lieu où les adorateurs de la nation se rencontrent. Ils tissent des relations, ils tissent un hôtel ensemble. C'est pas que pour le présent, c'est pour dans 5 ans, dans 10 ans. Il est important. Alors on peut comprendre plein de choses, mais je pense qu'il y a un temps de connexion qui vient. Et donc on a mouillé le maillot. Même Sébastien et Christine, ils ont abandonné, mais je comprends que tu ailles en short et en t-shirt, parce que moi je suis venu avec mes grosses chaussures, ils étaient mouillés. Et quand je disais qu'on a quelque chose à apporter, notamment il y avait le samedi soir dans le temps de tabernacle, on a sorti les bâtons et ça s'est propagé comme un... C'était une folie ce soir-là. Et c'est pas évident, parce qu'on ne veut pas faire quelque chose juste pour le faire, mais il y avait quelque chose qui était redonné à la nation à ce moment-là. Et nous, on a quelque chose à apporter. On a quelque chose à donner. Pas juste Vito, pas juste quelques-uns, mais ici. On a quelque chose à transmettre. Ça a été vraiment un temps incroyable. Alors, les temps d'attente, plusieurs l'ont parlé, donc de Samuel. Juste imaginez le contexte d'un roi qui dit à toute une armée, vous allez vous planquer derrière les arbres et vous attendez. Nous, on le lit, c'est 2 lignes. Mais quand tu es dans l'armée et que tu te... Les mûriers, je sais pas quelle taille ça a, mais bon, voilà... Et t'attends. Un jour, 2 jours, 1 heure, je ne sais pas combien de temps ils ont attendu. Est-ce qu'on est prêt à attendre? Et c'est vrai qu'il faut attendre un truc que personne n'a vu ni entendu. C'est bien sympathique. Mais cette attente-là, juste avant, au verset 12 dans ce passage, il dit que David reconnut que Dieu l'affermissait et l'élevait. Est-ce que toi tu reconnais ce que Dieu fait dans ta vie? Il y avait une reconnaissance de ce que Dieu est en train de faire. Et de cette connexion-là, il a pu rapporter ça, il a pu rester ferme derrière. Je voudrais parler d'une autre attente, c'est celle de Saül. Vous savez, quand il a été roi, je ne peux pas lire tous les versets, c'est dans 1 Samuel, chapitre 13. La situation est très critique. Si vous lisez le passage, regardez là. Les gens étaient serrés de près, ils ne savaient plus quoi faire. Et là, il y a un roi qui dit, ben, on attend. Un jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine. Et sous la pression, Saül va faire le sacrifice. Et là, il perd. Il perd quelque chose d'incroyable. Maintenant, je vais juste vous imaginer, le conseil d'église vous dit, voilà, on se réunit pour faire une campagne d'évangélisation. Super. On se réunit à l'église. Et on fait quoi? Ben, on attend. Et il vous fait attendre une journée. Comment vous serez à la fin de la journée? deux journées. Et vous serez comment à la fin de la deuxième journée? Et à la fin du septième jour, et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que les gens sont commencés à partir. Quel poids de pouvoir dire on attend. On attend. Un des autres passages qui était donné par Cœur Russell, c'est l'histoire des dix vierges. Vous savez, il y en avait cinq vierges et cinq folles. Sages. Une folle. Bref. Il a amené cette fois-ci l'aspect de manière un peu différente. Il a parlé de la lampe. C'était quoi la lampe? La lampe, c'est cet élément qui va nous permettre d'éclairer les autres. C'est notre aura, c'est notre zone d'influence. C'est notre zone d'influence. Et souvent, quelle est notre zone d'influence? C'est notre ministère. Et dans ce passage-là, c'est intéressant de voir que certains vont chercher Dieu pour la lampe, pour que la zone d'influence fonctionne, pour qu'elle soit remplie. Ils ne cherchent pas Dieu pour Dieu, ils cherchent Dieu pour que la lampe soit remplie. Quand ils disent l'époux vient, eps, on a plus d'huile dans l'autre lampe. Il faut que notre zone d'influence brille. Pourquoi on cherche Dieu? Et ce passage nous parle à un moment donné où ces vierges un peu folles nous disent « Mais donnez-nous de l'huile !» La réaction des vierges sages, ça a été « Non. » Manque de compassion quand même, vous ne trouvez pas? On aurait pu dire « Oui, on partage un petit peu, on fait quelque chose ensemble. » Et là, c'est « Non. » Mais elle donne quand même ce conseil, c'est d'aller chercher de l'huile. Où ça? Chez le parfumeur. Vous avez remarqué, ce n'est pas de l'huile qu'on va acheter à l'épicier du coin, au droguiste. Il faut une huile parfumée. Et j'aime que nos maisons de prière en France, beaucoup s'appellent maisons des parfums. Je crois que nos maisons de prière sont des lieux où on peut aller chercher cette huile parfumée. Une histoire avec Dieu, une connexion avec Dieu. Et c'est quelque chose qui ne va pas être donné par imposition des mains. Quelqu'un te arrive dessus, pouf, ça ne marche pas. Tu dois construire ton histoire personnelle avec Dieu. Tu dois construire cette relation, cette intimité qui va t'emmener plus loin. Et ce passage-là, c'est intéressant parce qu'il parle du royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable à quoi? À une relation. Non pas une structure, non pas une forme, mais à une relation. Moi, ça m'a fait replonger tout ça dans... Bien sûr, parce que si 5 et 5, 5 c'est 5 ministères, ça m'a parlé de gouvernement. Il peut y avoir deux gouvernements qui ont l'air très très bien. Mais il y en a un dans lequel il y a une vie profonde qui te conduit à l'intimité. Il y a un deuxième gouvernement qui va t'amener à construire des contenants. Et c'est tout. Et ça m'aurait ramené, quand on avait été à ce fameux marche d'intercession en Amérique. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi Washington s'appelle Washington DC? Pourquoi pas Washington tout court? En fait, c'est Washington du district de Columbia. C'est comme si c'était Paris de la région d'Alsace. Qu'est-ce que ça a à voir? En fait, la ville qui aurait dû être la capitale des Amériques, d'Amérique, c'était Columbia. Il y avait un appel sur sa vie, dans le coin, autour du côté de Lancaster. Aujourd'hui, cette ville, elle est misérable. Quand on y est passé, c'était pas un endroit... tu voyais que la pauvreté était là. Cette ville a eu un appel incroyable, être la capitale d'Amérique. Elle n'a rien eu. La capitale s'est trouvée à Washington. L'autre consolation, Washington, d'ici. Washington, district de Columbia. Pourtant, dans cette ville, je pourrais reparler de cette journée avec cinq fleuves. On avait parlé ce jour-là des vierges folles, sales. On a vu des signes. La garde présidentielle passée. On a vu un aigle. Il y avait l'heure qui avait sonné à 17h, que c'était pas 17h. Tellement de choses sont passées ce jour-là. Dieu veut qu'on s'aligne avec son type de gouvernement. Et si on est aligné avec son gouvernement, dans l'intimité, alors la royauté viendra. Je finirai par l'épouse, l'église, non, c'est l'esprit et l'épouse disent viens. L'esprit et l'épouse disent viens. C'est incroyable de dire que ce livre de la Révélation nous engage, nous, à une collaboration tellement étroite avec l'Esprit de Dieu. Il aurait pu dire l'Esprit et le Père disent viens. L'Esprit au Jésus disent viens. C'est l'Esprit et l'épouse. Alors on apprend tout juste à être des fils et des filles. Je ne sais pas si on y arrive vraiment. On a essayé d'être des pères et des mères. Je ne sais pas si on y arrive aussi. Mais au moins, on essaye. Et là, tout d'un coup, c'est devenir l'épouse. C'est quoi ? Ça se passe comment ? Comment être l'épouse ? Et je ne parle pas simplement d'être l'épouse moins individuellement. C'est l'épouse avec un grand E. Comment être l'épouse de manière collective ? Comment être l'épouse dans ce temps où on a besoin de se connecter ? Est-ce que si, par exemple, je viens dans un temps de maison de prière et que je suis passif, est-ce que je suis l'épouse à ce moment-là ? Comment est-ce que je suis engagé à être l'épouse ? Et je crois que Dieu nous attend. C'est ce qu'il disait Ézéchiel 37, quand Dieu a engagé le prophète à dire « Toi, parle ». C'est à toi de manifester la voix de Dieu sur terre. Cette connexion, on la travaille de manière collective. Et c'est vraiment un travail de... On appelle les choses du ciel à venir sur la terre, viens. Je rappellerai que nos maisons de prière, comme cette rencontre en sans feu, c'est avant tout un lieu où on vient, comme a dit Luc au début du message, au début du culte, on vient pour lui. Et c'est ce qui a été dit au début, si vous êtes venu pour vous faire du bien, vous êtes planté. Il y a plein de super conférences. Il y avait Joss Meyer à Paris, il y avait des trucs, je ne sais pas où. Si, ne venez pas à France en feu pour vous. Vous allez recevoir, comme l'a très bien décrit David. Mais si vous venez pour vous au départ, c'est loupé. Et on a tous nos attentes et nos frustrations quand on va à une conférence de ce type-là. Mais c'est un endroit où on doit venir pour Dieu. Pour l'élever son nom, pour le louer, pour mettre de côté nos frustrations. C'est vrai que par exemple, Cor Russell, pour revenir, c'est pas mon style de message non plus, ça me fatigue. Mais si on arrive à mettre de côté parfois ce qui nous à l'intérieur, c'est juste incroyable ce qu'on arrive à vivre. Donc je crois que Dieu est en train de lever encore et encore un autel d'adoration pour la nation, de lever des adorateurs, et c'est un privilège d'être là-bas. C'est vraiment un privilège, c'est un cadeau qui nous est fait. Il y aura plein de conférences pour un tas d'autres trucs. Mais chercher une conférence qui n'a pas un thème, les nations, l'évangélisation, la réforme, juste Dieu, regardez bien combien il y en a. Et il y en a une en France. Y serez-vous l'année prochaine ? Je vous y engage en tout cas. Nous, on a été bénis, moi j'ai été béni. Voilà, merci.
Merci à l'équipe. On comprend pourquoi il y a quatre évangiles, hein. C'est les gens qui ont vécu la même chose, quatre facettes différentes, chacun un regard qui complète l'autre, c'était super. C'était du quadricôme, c'était de la 4D. En fait, c'était un culte en 4D, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça c'est très très fort. Donc en tout cas, on retient ces pépites, et moi je en particulier cette notion que la gloire, c'est la présence de Dieu, et cette présence qu'on manifeste. Voilà, donc merci pour ce compte-rendu. On a l'impression d'avoir un peu vécu. Je pense que de temps en temps, il faudrait peut-être certains écrits, en particulier des paroles de Dieu sur le pays. Et cette notion d'attente, on la sent très fortement. Elle nous a été dite par Jean-Marc Taubois, entre Pâques et Pentecôte, la période d'attente. Et je pense que le jeûne qui aura lieu tout à l'heure s'inscrit dans cette même lignée d'attente de Dieu. Voyez, attente de Dieu. Et que Dieu fasse de l'outre que nous sommes, la ramollisse, l'huile, afin qu'on puisse, que le contenant puisse accueillir les choses nouvelles du Seigneur que nous avons. Voilà, on va s'arrêter là. Merci Seigneur pour sa présence, pour ce culte. J'ai oublié de dire au niveau des annonces, sachez qu'il y a plusieurs qui ont demandé par rapport au baptême. Donc il y en a certains que j'ai commencé à voir. Donc il y aura sûrement quelque chose cet été et quelque chose aussi à l'automne, en deux séries. Donc s'il y en avait qui aimeraient se rajouter, on ne sait jamais. Merci de prendre contact avec nous. Voilà, on vous souhaite un très bon dimanche à chacun. Et soyez bénis. Et puis, il est 12h25. Et ben, je propose que dans un quart d'heure, à 1h20, si possible, de partir ceux qui voudraient partir. Mais l'équipe qui restera pour jeûner, ben, on attaquera dans un quart d'heure. Voilà. Bon dimanche à tous.